One, two, three, four. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du grand direct de Radio Django. Trois sujets au programme pour vous ce soir. Et on va commencer avec toi Fabio, nous allons débuter cette émission avec une initiative dont nous avons déjà parlé plusieurs fois en fin d'année dernière, qui impacte très directement les médias suisses. Il s'agit de l'initiative No Bilag.
Effectivement Fabien, initiative populaire fédérale qui sera votée par le peuple le 4 mars prochain, initiative qui demande la suppression des redevances radio et télévision. Hier il y a eu une conférence de presse et un comité vaudois qui s'est présenté à la presse pour combattre cette initiative. Donc on va en parler avec une association, Acidus, qui est une association qui était présente hier, et voilà.
Voilà, bah de quoi découvrir un nouveau volet, une nouvelle facette de cette initiative qui nous touche tous de près en tant que bons Suisses. Ce sera dans Vivre à Lausanne en ouverture d'émission. À 18h20, La Rose des Vents avec toi Daniel, bonsoir. On va se mettre à la boxe ce soir si j'ai bien compris.
Oui, bonsoir Fabien. Nous parlerons donc d'un sport aux origines antiques, pratiqué par les pugilistes et les pancartiastes. Les coups étaient permis et dans un corps à corps d'une rare violence. Mmh. Et finalement, ce sport en fait est devenu un art noble seulement à partir du 19e siècle. Et c'est devenu donc une discipline sportive légale. Et ce soir, nous aurons l'occasion de découvrir le parcours d'un jeune boxeur en herbe, Régis Bruno Nkuluzambo.
Mais je me pose une question, la boxe c'est bientôt au JO, c'est déjà au JO?
Alors oui, Tokyo 2020.
Ouais, Tokyo. Ah voilà, bah oui.
On y est bientôt.
On y est tout bientôt. Voilà pour la boxe au menu de La Rose des Vents. Et puis, ce sera avec toi Jean-Luc. Bonsoir, La Rose non cultivée Lausanne à 7h20. Et nous allons parler littérature avec des découvertes littéraires.
Ben voilà, nous allons recevoir à nouveau la librairie Basta qui est de retour sur les ondes de Django. Et Laurence Deveau nous parlera de deux livres. L'un, l'œuvre de Paolo Cognetti qui s'appelle 8 montagnes. Uh-huh. Et l'autre, des Alice Riva. Donc, à tout à l'heure.
Voilà, à découvrir dans Cultiver Lausanne. Merci Jean-Luc. Nobilag avec Acidus, Régis, le jeune boxeur en herbe, et la découverte littéraire de Basta. C'est le programme de ce 127e grand direct à écouter sur Radio Django et Radio La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et nous en avons déjà parlé de l'initiative No Bilag lors de la pause syndicale. C'était au mois de décembre dernier avec une représentante du syndicat des Suisses Mass Media, le SSM. Aujourd'hui, on revient sur ce sujet pour le moins brûlant, Fabio.
No Bilag, cette initiative qui demande que plus aucune redevance ne soit prélevée par la Confédération pour financer les chaînes de radio et de télévision.
Et puis aujourd'hui, chaque ménage ainsi que les entreprises payent cette redevance, ce qui permet de financer à hauteur de 25 voire 75% le fonctionnement des chaînes romandes, certaines privées comme Canal 9 en Valais par exemple, d'autres publics tels que la Radio Suisse Romande ou encore la télé Vaud-Fribourg.
Oui, et puis arrêter ce financement signifierait de fait que l'effondrement d'une soixantaine de chaînes de radio et de télévision, dont 19 en Suisse romande, et en plus de quelques 13 500 emplois qui passeraient à la trappe sur le plan national.
Effectivement, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, la résistance s'organise un peu partout en Suisse et la campagne contre No Bilag a démarré dans plusieurs parties du pays.
Oui, et hier lundi, un comité vaudois s'est présenté à la presse. Il est composé de représentants des milieux des médias, bien entendu, mais aussi culturels, milieux sportifs, entrepreneurial et même du troisième âge. Il y avait à la conférence de presse La Vivo, qui est une association de personnes âgées. D'autres associations sont aussi au premier rang pour combattre cette initiative, dont Acidus, une association de défense des usagers du service public. Et ça tombe bien, puisqu'Acidus est notre invité ce soir. Bonsoir, Andrea Egli et Nicole Maté.
Bonsoir Fabio.
Nous vous avions déjà reçu à Django pour parler des accords TISA, ces fameux accords sur le commerce et les services qui visaient à détourner le concept même de service public au profit des entreprises. C'était il y a une année.
Il y a à peu près une année.
Il y a à peu près une année.
Vous aimez bien les sujets qui fâchent un petit peu, hein?
Oui, tout à fait.
En tout cas, c'est des sujets qu'on aime bien, dont on aime bien parler à...
Ah ben oui, quand tu as quelque chose à en dire.
Bien sûr. En préambule, Nicole, tu nous présentes un petit peu plus précisément ce que c'est Acidus.
Oui, c'est très simple. C'est une association dont le but est de défendre les usagers du service public et les usagers et le service public.
Ah ben voilà, c'est court, c'est bref, voilà.
c'est efficace.
Court mais bref.
Donc hier, vous avez participé à cette conférence de presse, le lancement de ce comité de campagne contre l'initiative Nobilag. La bataille, elle va être assez rude, j'imagine.
Oui.
Pour quelles raisons vous avez rejoint ce comité et d'après quel angle d'attaque d'Acidus?
Eh bien, tout simplement parce que la SSR, qui est donc la Société Suisse de Radiodiffusion, est un service public. Donc, cela nous concerne directement. La redevance fait vivre la SSR, mais aussi 34 radios et TV locales. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres.
Sur les chiffres,
mais
hein,
ça fait rien.
Mais pourquoi les gens ne sont pas forcément d'accord sur les chiffres? Parce que pourtant, c'est des faits, c'est clair qu'ils reçoivent la redevance, qu'ils ne la reçoivent pas.
J'ai l'impression, parce qu'on oublie souvent de préciser si on parle du canton ou d'un canton ou de la Suisse entière. Mm-hmm. C'est sans doute pour ça, oui. Alors, si l'initiative est acceptée, ce serait la fin des subventions obtenues grâce à la redevance. Et cela entraînerait la disparition rapide et totale du service public qu'est la SSR, y compris celle des radios et TV locales. Le service public céderait la place au libre marché privé, lequel ne serait pas très soucieux ni préoccupé de défendre le public roman, qui est plutôt modeste. En plus, il y aurait un risque de blanchérisation. Je m'explique. Le marché privé, la disparition du service public laisserait la place vide, qui serait immédiatement occupée avec un grand plaisir par les nombreux petits journaux que M. Blocher a rachetés ces derniers temps. En outre, qui dit service public dit aussi indépendance, ce que permet la SSR, qui offre actuellement de la culture, du sport, des divertissements, mais surtout de l'information. Les chaînes privées ne s'en occuperaient plus de l'information, car elles seraient soit romandes, c'est-à-dire toutes petites et sans moyens, soit étrangères, et donc les infos viendraient de l'étranger ou pas du tout. Hier, à la conférence de presse, quelqu'un a dit « Voter Nobilag, c'est voter contre la Suisse et offrir un tapis rouge aux TV étrangères ». Inversement, notre pays et donc notre voix ne se ferait plus entendre à l'étranger comme actuellement, par exemple grâce à la diffusion sur Arte ou TV5 Monde d'œuvres d'auteurs suisses et notamment suisses romans, ces œuvres étant subventionnées par la TV. Je pense par exemple aux excellents documentaires Temps présent.
Oui, alors effectivement, tu parles de plusieurs raisons qui font qu'il faudrait repousser Nobilag, qu'on est contre Nobilag. Il y avait toute une série de groupes d'intérêt, en fait, hier à cette conférence de presse. Tu parlais par exemple des cinéastes ou des vidéastes ou des documentaristes qui n'auraient plus tellement de subventions, d'aides, et puis dont les œuvres ne pourraient plus tellement être vues. Donc, il y avait beaucoup de groupes d'intérêt hier à cette conférence de presse. Il y avait même les cafetiers restaurateurs.
Oui.
Le festival jazz de Cuy. Donc là, on rejoint le milieu de la culture, la Société Suisse des auteurs, ou encore PETZI, rappelons-le, qui est la...
Fêtière des clubs de musique actuels.
Voilà, exactement.
Gastrovo, je ne sais pas si tu l'as dit.
Oui, Gastrovo, ça faisait partie des cafetiers restaurateurs.
Ah bah oui. Hein, voilà. La SRT, Société des radios et télévisions. Et puis, il y avait La Vivo, qui s'occupe des personnes âgées, et la SSA, Société Suisse des auteurs.
C'est intéressant le discours de La Vivo. Hein. Ils disent la radio et la télévision, c'est un moyen extrêmement important pour les personnes âgées de rester en contact.
Oui.
Et puis d'avoir une présence, une âme à la maison lorsqu'on est un peu âgé, un peu isolé.
Oui. S'il n'y avait plus ça, il y a peu de chances que les médias privés
leur offre quelque chose pour remplacer la télévision ou les radios. Il y avait aussi, dans le comité vaudois, il y a aussi l'AROPA, c'est l'Association romande de la production audiovisuelle, Médias pour tous. Et puis, évidemment, dans ce comité, il y a des associations qui s'occupent du QI Jazz Festival et de l'Atletissima.
Les milieux sportifs, effectivement. Oui, hein. Oui. Avec quelques personnages politiques aussi qui, sont, oui. qui soutiennent la, la campagne contre Nobilag. Assidus, on l'a dit, petite... enfin, non, petite. Enfin, non. Même, ouf, les regards de Nicole et d'Andrea, aïe, aïe. Une association qui a pour but de la défense des usagers du service public, on l'a dit tout à l'heure. Quelle place elle peut prendre dans ce groupe ?
Eh ben, par rapport à toutes ces associations, Assidus est plutôt générique. C'est-à-dire qu'elle permet à tous les usagers, quelle que soit leur appartenance et leur centre d'intérêt, d'être représentés et d'avoir voix au chapitre.
Vous avez parlé d'actions hier. Oui. Quelles sont les actions qui sont prévues par ce comité ?
Alors, il y a pas mal de choses. Il y a de la publicité dans les journaux, une campagne d'affichage, des stands avec distribution de tracts, un lancement de deux sondages, un qui aura lieu fin janvier et un autre fin février, et puis un rassemblement national à Berne le 30 janvier de 18h à 19h30 à la place fédérale. Il y aura aussi des lettres de lecteurs et un débat qui devait être public, mais je crois qu'il n'est plus public. Ça, c'est à vérifier, c'est encore pas tout à fait sûr. À la télévision qui s'appelle La Télé, le 7 février.
Voilà, tu parles d'affiches, de flyers, en tout cas de communication. Est-ce que vous avez l'impression que c'est facile de communiquer le pourquoi il faut être contre Nobilag.
André Aigli.
Bonne question, c'est un peu compliqué, hein, parce que Bilag est une entreprise de mandat public, hein, mais qui s'est fait haïr des gens. Et alors les gens, ils ne veulent plus rien savoir de Bilag. Mais Bilag, c'est un nom. La redevance, c'est autre chose. Ce n'est pas simplement Bilag. La redevance, elle pourrait s'appeler autrement. L'entreprise qui reçoit le mandat public, d'ailleurs, en 2019, ça va s'appeler différemment.
Oui, parce qu'elle a changé de nom, effectivement. Le mandat est attribué à une autre entreprise.
Voilà. Mais la question, c'est la redevance. Et les gens ne se rendent pas bien compte de qu'est-ce qu'elle couvre, cette redevance. Cette redevance qui permet de... passer à la télé des matchs ou des manifestations sportives, pas des grandes envergures, parce que les choses de grande envergure, elles passent toujours. Il y a toujours des sponsors qui vont payer pour que ça passe. Mais celles qui ont moins d'envergure, elles passeront plus parce que personne ne va payer pour qu'elles passent dans une télé privée. Donc autant des manifestations sportives que des manifestations culturelles, des festivals un peu moins connus ou moins prestigieux que le Montreux Jazz ou que le je ne sais quoi, ils passeront plus. Il y aura plus toute cette diversité. La redevance, elle nous permet d'avoir cette diversité qui est ça, qui est la base, qui est la base de la démocratie. C'est la circulation des idées, la circulation des pensées diverses, de toutes les différences linguistiques, régionales, culturelles, politiques. Tout ça ne va plus avoir de la place dans des télévisions privées. Et on n'a qu'à regarder en France. Quand on voit que nos programmes phares de l'information, comme Temps présent ou Mise au point ou 36.9 ou je ne sais pas que l'autre qui passe le lundi, enfin voilà, ils passent à des BBC. Heures de grande écoute. Oui, en oui. France, ils passent à 10 heures ce mm-hmm. genre de programme. Oui. Donc ça ne va plus avoir lieu. Donc, mm-hmm. Tout ça est perdu. Donc, à mon avis...
Puis en fait, on dit aussi que c'est... chaînes de radio et télévision sans redevance pourront vivre de la publicité, alors que, tu viens de le dire, comme elles ne seront pas intéressantes pour les publicitaires, c'est un faux argument.
Oui, et puis bon, on est déjà assez envahi de publicité. Hein.
Moi, oui, oui,
la solution de la publicité, voilà, chaque fois on veut plus de publicité qui paye, mais on ne doit pas oublier que l'hebdo, le matin... le journal Le Matin en version papier sont disparus parce qu'il manquait de publicité. Donc, il ne faut pas oublier tout
bien
ça.
Sûr.
Donc, alors, on va aller la trouver où, cette publicité mm-hmm. qui va payer nos chaînes régionales. Mais ça ne va jamais payer.
Hier, le directeur de la télé disait qu'un des initiants de Nobilag disait que la publicité, il n'y avait qu'à se baisser pour la ramasser. Il a dit, je peux vous assurer que c'est totalement faux, il y en a de moins en moins, on en trouve de moins en moins.
Et c'est le directeur de la télé qui dit ça.
Oui.
Nicole, on voit par exemple que certaines formations politiques, libéraux radicaux par exemple, qui font aussi partie de ce comité de campagne vaudois, prônent déjà maintenant des réformes avant la votation sur nos bilagues, par exemple avec en disant que les entreprises seront exemptées de la redevance. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt une tendance, la tendance à donner du lest pour amadouer un peu la population, non ?
En effet, on peut considérer ça comme des mesures démagogiques visant à essayer d'influencer le résultat de la votation du 4 mars.
Ouais. Une autre mesure, par exemple, a été celle de diminuer la redevance, qui est à 450 francs, qui va être encore cette année. Et puis l'année prochaine, elle va passer à 1 franc par jour, donc 365 francs. Qu'est-ce qu'Assidus pense de ça, de ces mesurettes comme ça ? Est-ce que vous défendez aussi le fait de ne rien lâcher ou...
Non, alors oui, effectivement. D'abord, Assidus considère cette diminution de, je crois, 85 francs comme très regrettable.
Qu'il faudra aller chercher ailleurs.
Il faudra. Et puis, excusez-moi. Assidus regrette que la redevance ait été diminuée d'environ 85 francs. C'est évidemment une défaite partielle pour les opposants à nos bilagues, parce que, en effet, 85 francs de moins par foyer, ça fait quand même une grosse perte pour la SSR. Qui va couper où ? Qui va supprimer quelles prestations ou combien de postes ?
Donc, de toute façon, il y aura, même si l'initiative devait être balayée et refusée, il y aura de toute façon de la souffrance qui sera au niveau de tous les services publics et de toutes les entreprises.
Oui, en effet.
Ça, c'est sûr.
Alors, on a... Oui, Nicole ?
Je voulais dire encore une chose. Assidus prône l'inclusion de la redevance dans les impôts pour qu'elle soit proportionnelle aux revenus.
Oui, nous sommes contre les taxes. Parce que 451 francs par année, si tu gagnes 3 000 francs par mois, ce n'est pas la même chose que si tu en gagnes 12 000. Donc, si on fait proportionner le revenu, celui qui gagne 3 000 paiera sa part, celui qui gagne 12 000 paiera sa part. Mm-hmm. Donc, inclus dans les impôts. Arrêtons.
Est-ce que c'est un discours que vous tenez, vous, à Assidus, ou bien de façon plus large avec d'autres
À gauche, ça se tient de plus en plus fort.
D'accord.
Et nous attendons le lancement d'initiatives dans ce sens.
Mais
on
ne
sait pas qui va avoir
pas.
La force de le faire, mais ce serait la voie.
On a beaucoup parlé d'argent, de moyens, et la qualité dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut défendre comme qualité en termes de radio et télévision, Andrea, la qualité dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, celle qui fait que des émissions phares passent à des bons moments, et puis c'est des excellentes émissions comme Temps présent.
Alors, on peut voir que les émissions d'information sont très diverses et puis toutes sont de qualité. Qu'on parle d'animaux ou de ce qui se passe, je ne sais pas dans quel pays, ou bien de ce qui se passe chez nous, à côté de chez nous, couleur locale par exemple, ce sont des émissions de qualité. Et l'information qui est transmise, elle est claire et puis elle est, ça a été recherché. Donc, si on va, on a aussi des émissions culturelles qui sont de grande qualité aussi. On a des discussions aussi avec des écrivains ou avec... il y a toutes sortes d'émissions de qualité. Et si on trouve que la qualité n'est pas importante, n'est pas assez bonne, allons exiger une meilleure qualité encore. Parce que comme c'est du service public, nous avons quelque chose à dire. Quand ce sera privé, on ne pourra rien dire. Mais là, c'est du service public. Alors nous pouvons exiger que ce service public s'améliore, que la qualité augmente, que la diversité augmente, que n'importe quoi augmente.
Oui, ce n'est pas en balayant cette initiative qu'on va pouvoir améliorer.
Ah, certainement pas.
Puisqu'on parle de tout supprimer.
Eh oui.
Voilà, une petite dernière question, avant de passer un peu de musique. On a parlé de nos bilagues, mais on vous a sous la main et on sait que Assidus est très actif aussi dans une autre campagne, Touche pas à ma poste. Juste un tout petit mot une alors, petite Assidus, tribune sur Django pour nous raconter.
Assidus, qui défend tous les services publics, se bat aussi pour essayer d'éviter la suppression de nombreux offices de poste dans le canton. Alors, c'est pourquoi elle organise une table ronde sur le thème « La poste 4.0 ou la numérisation du travail ». Cette table ronde aura lieu le mercredi 24 janvier à 19h à l'espace Dickens, numéro 6 à Lausanne. Je ne vais pas donner le nom des intervenants, il y en a un petit peu trop. Et puis, nous nous battons aussi pour... nous entrons dans la campagne pour le remboursement des soins dentaires. Et nous sommes beaucoup investis en ce qui concerne l'accord TISA, l'accord de libre-échange international. On a laissé ça un peu en repos l'année passée, mais ça repart maintenant.
En deux mots pour conclure ce sujet et revenir peut-être vraiment un instant sur Nobilag, qu'est-ce que vous auriez comme argument vraiment en quelques secondes pour convaincre? S'il y avait deux éléments à mettre en avant, quels seraient-ils pour vous?
Garder notre indépendance, premier argument. Et deuxième,
sauver la démocratie. Alors, Nobilag s'attaque à la démocratie. Quand il s'attaque quand il défend une pensée unique, une pensée qui n'est pas la pensée du service public, qui n'est pas la pensée des citoyens, il s'attaque à la démocratie.
Mmh. Voilà, on retiendra ces éléments-là, Fabio, pour cette question Nobilag. Une question qui sera soumise au peuple le 4 mars prochain. Donc à vous toutes et à vous tous, rendez-vous aux urnes. Faites-vous une petite idée de quoi voter suite à ce sujet notamment. Merci beaucoup, Nicole Maté. Merci beaucoup également à vous, Andréa Aigli, d'être venue ce soir nous parler de cette initiative Non à Nobilag, l'initiative Nobilag. Vous êtes de l'association Assidus. Et puis on rappelle encore ce grand rassemblement unitaire national contre la suppression de la redevance qui était initialement prévue le 23 janvier. Elle était renvoyée d'une semaine en raison de l'arrivée en Suisse d'un certain Donald Trump. Alors, elle aura donc lieu le 30 janvier de 18h à 19h30 sur la place fédérale de Berne devant le palais fédéral. Pour les prochains événements proposés par Assidus, vous pouvez les retrouver sur votre site www.assidus.ch et puis vous donner encore, hein, puisqu'on est au chapitre des adresses, l'association Nobilag qui a son site non-nobilag.ch. Merci beaucoup Fabio pour la préparation de ce sujet. Et puis nos invités de ce soir nous ont même amené un petit peu de musique. Elles nous proposent de se détendre avec cette chanson My Funny Valentine de Chet Baker. Thank you.
Chet Baker sur Radio Django et Radio La Fabrique. Un peu de douceur, un peu de jazz ce soir à 18h25. Vous écoutez le grand direct.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, nous parlons de sport aux origines antiques pratiqué par les pugilistes, dont la spécialité était de donner des coups uniquement à la tête, et les pancréatistes, pour qui tous les coups étaient permis dans un corps à corps d'une rare violence. Au fil du temps, ces sports de combat ont glissé vers des pratiques moins barbares, utilisant des techniques comme l'uppercut, le jab ou encore le pas chassé et le mental. Daniel, nous parlons, si j'ai bien compris ce soir, de boxe.
Alors oui, en effet, Fabien, bien deviné. Pour la petite histoire, des recherches archéologiques sur des textes anciens ont permis d'affirmer que la boxe existait déjà au millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, actuellement l'Irak, en Afrique du Nord et en Grèce. On sait par ailleurs que sur les territoires de l'actuelle Éthiopie, en Nubie, les hommes menaient des combats de boxe au 1er millénaire avant Jésus-Christ, et qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, ces combats servaient à divertir rois et pharaons sur les rives du Nil. À l'époque, les coups étaient souvent fatals, ce qui conduit l'empereur Théodose, un empereur romain, à interdire en 392 après Jésus-Christ les combats corps à corps. Mmh.
Mais que sait-on de l'histoire de la boxe plus contemporaine ?
Alors, il fallut attendre le 19e siècle pour que la boxe moderne, en tant que noble art, soit admise comme discipline sportive légale. Les combats deviennent moins violents, réglementés et plus techniques. Et la beauté du combat réside plus dans l'agilité des boxeurs que dans leur force. Pour la petite anecdote, c'est un boxeur suisse, Frank Hearn, qui est sacré double champion du monde de boxe anglaise en poids-plume en 1896. Il paraît aussi important de souligner que la boxe ne sera autorisée qu'en 1891 en Angleterre et en Amérique du Nord. Elle devient ainsi, dans ces deux contrées, un double médium d'expression. Pour la communauté noire, la boxe devient, avec Jack Johnson, un moyen d'exprimer la liberté de tout un peuple, opprimé, ségrégué et discriminé. Et pour la communauté blanche, un moyen d'exaltation du sentiment national.
Et puis, depuis quand est-ce que la boxe est reconnue aux Jeux olympiques ?
En 1901, le Comité international olympique admet la boxe amateur aux Jeux olympiques. Et en 1904, les femmes sont aussi autorisées à participer aux Jeux d'été de Saint-Louis aux États-Unis. C'est le début de la boxe féminine. Cependant, ce n'est que depuis 2016 que la boxe professionnelle est représentée aux Jeux olympiques. Ça fait rire notre invité.
Oui. Est-ce qu'on a remporté des médailles dans cette discipline au dernier JO ?
Non, pas de médailles en 2016, mais des jeunes boxeurs suisses, professionnels et amateurs, s'entraînent déjà pour les JO de Tokyo de 2020, comme notre invité de ce soir, Régis Bruno Nkuluzambo.
Bonsoir Régis.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes logisticien de formation et vous venez de finir votre formation. Et vous avez décidé à 19 ans de vous consacrer à la boxe.
Oui.
Vous vous essayez à la boxe, vous n'aviez même que 10 ans quand vous aviez commencé. Qu'est-ce qui vous fascine déjà aussi jeune dans ce sport ?
Aussi jeune dans ce sport, en fait, c'est que de base, je ne voulais même pas, ça ne me disait rien en fait. C'est juste comme il y a un club de boxe à côté de chez moi, et avec des amis, on s'est dit pourquoi pas, on va essayer, pourquoi pas.
Il y aurait eu un club de pétanque, vous auriez fait de la pétanque ?
Non. Ah. Non. Non, quand même pas, mais avec mes amis, on aimait bien la boxe et on parlait beaucoup de Mohamed Ali, Mike Tyson, parce que c'est vraiment deux icônes de la boxe que tout le monde connaît, même si on pratique pas la boxe.
Daniel le disait en ouverture, la boxe a changé de statut au début avec des sports violents, avec beaucoup de chocs et des combats corps à corps pour arriver au bout, voire même tuer la personne. Actuellement, vous le voyez vraiment très différemment. Il y a vraiment cette philosophie qui est entrée dans les mœurs de pratiquer un art, de faire un sport sans forcément blesser l'autre.
Oui, exactement, parce que surtout avec les années, la boxe, elle change, même par rapport au niveau des gants, au niveau tout, mm-hmm. au niveau vraiment de tout.
Régis, à quel moment est-ce que vous avez compris que vous étiez fait pour ce sport ?
J'ai compris ça à l'âge de mes 14 ans. De mes 14 ans, je me suis dit, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire.
Mais est-ce que c'est grâce à un entraîneur ou c'est vous, au fond de vous, en fait, qui avez eu un sentiment,
je veux dire ? En fait, c'est moi, au fond de moi. Et puis, quand je m'entraînais, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, t'es bon, t'es vraiment bon, t'es bon pour ça. Et puis, du coup, ça m'a encore plus motivé. Et après, je me suis dit, bon, je finis mon apprentissage et tout. Et puis, pourquoi pas, si ça marche, on y va.
En faire carrière. Mais est-ce qu'il faut un talent particulier pour être boxeur ?
Après, il n'y a pas que seulement la détermination, il faut aussi le talent, comme dans chaque sport. Il faut un peu de talent.
Comment est-ce qu'on pourrait mettre des mots sur ce talent, justement, dans la boxe ?
La vision du combat,
la stratégie,
les réflexes, c'est des trucs qui viennent.
Mais il faudrait peut-être préciser que vous avez développé déjà ces réflexes en étant judoka à une certaine période.
C'est vrai, c'est pas faux, mais ça c'est des trucs moi quand je suis dans le sport, je développe ça automatiquement.
Vous êtes né pour faire du sport, presque.
Enfin, on peut dire ça comme ça.
La boxe au Cameroun semble très populaire.
Exactement.
Les boxeurs camerounais ou d'origine camerounaise sont ceux du continent africain qui s'illustrent le plus au niveau mondial.
Oui.
D'après Basile Balong, secrétaire général de la Fédération camerounaise de boxe, deux choses expliquent en fait ce phénomène, la rage et la réussite des Camerounais dans la boxe. Les Camerounais ont une force physique naturelle.
C'est vrai.
Et surtout un gros mental. Et certains, de par leur parcours de vie, savent ce que veut dire sacrifice et douleur. Est-ce que vous pensez, Régis, d'origine camerounaise, avoir hérité de ce mental d'acier ?
Moi, je pense bien. Oui, je pense bien. Parce que la plupart, pour dire ce qui est vrai, la plupart des Camerounais, physiquement, ils sont nés, physiquement, ils ont une force, bien développée déjà à la naissance. Et même dans le sport. Dans les sports de combat, la plupart des Camerounais sont bons.
Quel est le sport traditionnel du Cameroun ?
Le sport traditionnel du Cameroun.
J'avoue que j'ai fait quelques recherches sur Internet, j'ai rien trouvé.
Moi, voilà, on saura tout.
Pensez à la lutte, comme au Sénégal, mais que nenni.
On n'a pas vraiment de sport attitré au Cameroun.
La boxe, on va dire.
Bon, la boxe, on est bon dedans, Dans la boxe et dans le foot, on est bon. Mais après.
À explorer.
Voilà, à explorer, exactement.
Vous boxez au niveau professionnel ou amateur, Régis ?
Amateur au niveau.
Et si demain, vous étiez sélectionné pour un championnat international, est-ce que vous choisiriez le drapeau suisse ou le drapeau camerounais ?
Après, ça, je pense pour les... c'est une question...
Énigme. C'est une question difficile.
Après, même par rapport aux Jeux Olympiques... Même moi, je sais pas quel drapeau je vais représenter. Je sais pas, aucune idée. Je sais pas si je prends pour la Suisse ou pour le Cameroun. Mais bon, moi, j'aimerais bien des connaissances à moi que je connais bien dans la boxe me disent d'aller avec le
drapeau suisse.
Non, le Cameroun. Parce qu'ils me disent, t'as plus de chance avec la Suisse. Non, mais moi, j'aimerais aussi bien représenter la Suisse.
Ah, c'est une question du cœur, c'est compliqué. Dans quel club est-ce que vous vous entraînez, Régis ?
Au Omnisport, à la salle du Vieux Moulin.
Et comment se passent de manière générale les entraînements ? Là, vous allez nous quitter, vous allez partir à la salle d'entraînement.
Oui, bien sûr. En fait, les entraînements, c'est tous les jours, du lundi à vendredi, même voire pour moi des fois samedi. Et puis, en fait, chaque jour différent, on essaie de travailler de tout, en fait.
Et quelle est la fréquence ? C'est à raison de 2 heures par jour, 3 heures par jour ?
1h30, mais moi, j'essaie toujours de faire un peu 2 heures.
Mais vous entraînez seul ou bien votre entraîneur est avec vous ?
Non, avec les boxeurs, ceux qui ont des licences, ils sont licenciés. Ceux qui sont licences, ils ont des licences de boxe.
Régis, vous avez un régime alimentaire spécial pour préparer toutes ces heures de sport par semaine ?
Oui, parce que maintenant, je suis dans une catégorie à moins 69 kilos. Et puis, du coup, je fais attention à ce que je mange, etc. Et puis, ici, je suis suivi par un ami à moi, Michel, qui me fournit des protéines, tout ce qui est nutrition, quoi. Il s'occupe de moi. Et puis,
Donc, vous mangez beaucoup de sachets, alors ?
C'est pas très bon. Je prends pas mal, mais bon... Je comprends pas mal.
Qu'est-ce que l'on ressent, Régis, quand on tape dans un sac de frappe ?
Quand on tape dans un sac de frappe, en fait, ça... Moi quand je... Bah après, les autres gens, je sais pas, mais moi, quand moi, je frappe, moi, je me sens libre, ça me...
Ça vous libère ?
Ouais, exactement. Ouais.
Mais de quoi est-ce que ça vous libère ?
Ça me libère un peu tout, j'oublie tout, je suis là vraiment concentré, et puis voilà.
Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous tapez dans ce sac ?
Je m'entraîne avec la musique, ouais. Oui.
D'accord.
Je m'entraîne avec la musique.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre premier sparring ? Sparring, pour les auditeurs,
oui, merci de nous expliquer ce sparring. Qu'est-ce que c'est qu'un sparring, Régis ? Alors,
un sparring, c'est à peu près comme une sorte de combat, mais à la salle. À la salle, dans le club de boxe.
C'est une simulation, en fait.
C'est une simulation, en fait, ouais. Du combat, en fait.
En interne, avec des camarades.
Exactement. C'est comme un match amical, en fait. C'est ça, en fait. Et puis, franchement, mon dernier souvenir de mon premier sparring, c'est que... Bon, moi, je suis quelqu'un assez dur. Hein. Je résiste un peu, mais mon premier sparring, j'ai ramassé. Ah oui.
Est-ce
ah
que
oui,
vous
Je saignais du nez, j'ai ramassé.
Mais pourtant, vous aviez le casque, enfin, vous aviez des protections.
Ah oui, mais ça change rien.
Et ça vous a pas dégoûté de la boxe ?
Ça m'a pas... Non, ça m'a pas dégoûté. Honnêtement, ça m'a encore plus donné la rage. Ça m'a encore plus donné. Je me suis dit, je vais me préparer, je vais revenir. Bah, celui qui m'a mis...
K.O.
Qui m'a mis bien en sparring, je me rappelle de lui et puis je me suis dit... Ah, je vais m'entraîner, et puis ça ne sera pas comme ça la prochaine fois.
Puis la vengeance, c'était bon, c'était fait ?
Pas bon, encore. Malheureusement, il a arrêté la boxe, mais bon...
Ah mince.
Dommage que nos chemins se croisent plus.
Est-ce que vous avez déjà participé donc, à des championnats de boxe en Suisse ou ailleurs ?
Oui, les deux. En Allemagne, en Suisse, en France.
Et est-ce que le public en fait, est aussi stimulant en Allemagne, en Italie qu'en Suisse ? Est-ce que vous sentez une différence dans l'émulation qu'il y a quand on voit en fait deux boxeurs sur un ring ?
Bon après les Allemands voilà quoi, ils ont un peu leur mentalité assez dure, un peu les ils sont assez
c'est rigide ?
Ouais, assez voilà quoi. Parce que quand je boxe là-bas, je dois faire beaucoup la grande différence contre un adversaire de chez eux.
Mais dans quel sens ? Qu'est-ce qui fait la différence ?
Parce que eux ils sont... Parce que quand on boxe, quand quelqu'un d'autre boxe dans un autre pays, voilà, les juges, ils sont assez plus favoris pour leur boxeur de.
Donc c'est pas impartial.
Voilà, exactement. Et c'est ça, ça.
Appuie ça, c'est.
La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle en cas, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Maintenant, je suis redette comme les bacs dans mon secteur.
Ah ouais.
Ça, c'est pour vous, Régis.
Ça, c'est mon sang que je m'entraîne bien.
Vous avez les yeux qui brillent. En quoi est-ce que la boxe donne un sentiment de puissance, Régis ?
Quand on est un sentiment de puissance. En fait, on est à l'aise, on se sent sûr.
On a l'impression de tout pouvoir bousculer.
Non, après moi je suis pas. Après il y a certaines personnes, oui, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont comme ça. Pas forcément que dans la boxe, aussi dans d'autres disciplines, mais après ça, c'est un sport qui rassure.
Ça donne confiance donc.
Ça donne confiance.
C'est étonnant que la violence puisse donner confiance.
Mais. Après, c'est de la discipline aussi, c'est un sport
la rigueur.
Discipliné, bien sûr.
Mohamed Ali disait « Vole comme le papillon, pique comme une abeille,
exactement.
Et vas-y mon gars, cogne !»
Cogne.
Quel est votre style de combat, Régis ?
Mon style de combat, je suis plutôt...
Gros frappeur ? Coureur rapide ou carapace défensive ?
Connaisseuse, hein, Daniel ?
Un petit peu,
oui,
j'ai dû m'y mettre.
J'ai plutôt une boxe assez passif et un peu...
Pacifique ?
Ouais, un peu...
Stratégique, on va dire.
Stratégique, voilà. Je suis un peu stratégique, je suis pas trop... Bon, avant j'étais un bon cogneur, avant je cognais. Mais après, je me suis dit, c'est mieux d'être stratégique, boxer intelligemment que d'aller boxer comme une bête et ramasser des coups à la tête. Non, non. La boxe, c'est pas comme ça. Quelqu'un, un bon boxeur, ça va être intelligent, un peu malin,
stratégiste
et un peu vicieux, un peu.
Voilà. Un peu vicieux, attention.
Un peu sur son adversaire, c'est ça.
Quels sont vos rêves, Régis, pour les prochains mois, voire les prochaines années?
Bah, de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, bah, chouette. Et je vais aller aux Jeux Olympiques. Je veux tout faire en possible pour aller aux Jeux Olympiques. Et puis, pourquoi pas ramener une médaille, des JO, et puis ensuite commencer une carrière professionnelle, me lancer dans une carrière professionnelle à l'étranger.
Et après, Mike Tyson disait sur un plateau de télévision que la boxe et le sport ne sont qu'un tout petit moment de la vie. Mais comment est-ce que vous imaginez la suite? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, vous engager comme Mohamed Ali?
Non, je crois pas, non. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, peut-être ouvert une salle de boxe avec des boxeurs. Voilà.
Moi, à Lausanne ou à Douala?
Pourquoi pas les deux?
Si, bah oui.
Pourquoi pas les deux?
Allons-y, une chaîne, c'est bien. Merci beaucoup, Régis.
Je vous en prie.
La boxe reste l'un des sports des plus populaires. Hein. Si les sports de combat au corps à corps sont souvent représentés dans l'imaginaire collectif, des novices comme des disciplines sportives brutales, violentes, ne servant qu'à se défouler, et qu'un être boxeur ne serait qu'avoir un bon coup de poing, un bon coup de pied, un bon jeu de jambes pour l'esquiver des coups, frapper fort et susciter l'ire de son ennemi, avec pour seul objectif celui de gagner. Les préjugés, on la dent dure, hein, Daniel.
En effet, Fabien, car les valeurs promues à la salle de boxe se veulent aux antipodes de la brutalité pure. Respect, comme le précisait Régis, protection, self-défense, ruse, sens tactique, courage et combativité.
Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup, Régis, non, encore.
Je vous en prie, merci à vous.
Et puis, pour conclure, vous reprenez l'entraînement en salle en février. Mm-hmm. Et pour remonter sur le ring, un morceau pour vous donner un petit peu de motivation, Motivation Training de Kred.
Ah, oui, c'est...
Pourquoi ce titre?
Parce qu'en fait, j'ai regardé le film et franchement, c'est un film hyper motivant. Hyper motivant. Franchement, ceux qui l'ont vu, ils m'ont dit, va le voir, il est hyper motivant. Et moi, franchement, ça m'a... Waouh, j'ai vu le film, j'ai dit, impressionnant.
C'est une révélation.
Ouais, voilà.
Et vous foncez, vous mettez ça dans les oreilles quand vous boxez pour vous entraîner, tout aller à fond?
Oui, de temps en temps. Même quand des fois, je vais faire un jogging le matin pour courir un peu, je mets.
C'est bien. Voilà. Et on l'écoute pour vous, pour nous, pour le bien de nos oreilles, pour la motivation ce mardi soir à 18h42. Merci beaucoup, Régis. Une bonne soirée.
Merci.
Et plein succès. Merci à Daniel pour la préparation de ce sujet.
I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going, though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah. Damn, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never not bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. We young, homie, grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundown. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh, and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice in me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I came from them quarter waters. Every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must want a gang war.
I got an old girl and a transporter. Stepping is a habit, I got Zans on me. I'm riding in the flame, keep the fan on me. Catch me whipping the Hussein with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see water dripping off me, then catch it. I turn nothing into something, now I'm living. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was counting out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I'm fighting every day, I won't get back. I just wanna be the champ for the misfits and the one that was saying I couldn't do it. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter till the end, till my last breath.
Du rythme, des basses, tout ça pour donner de la motivation, ce que dit ce titre, Motivation Training, pour notre boxeur Régis que nous avions à l'instant dans La Rose des Vents.
Radio Django, culture.
18h45, on passe à cultiver Lausanne et aujourd'hui la librairie Basta est de retour sur les ondes de Django et nous accueillons Laurence Deveau. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous allez nous présenter deux livres ce soir, deux livres qui sont vos choix et ce choix s'est porté sur deux ouvrages construits autour de la question de la filiation, de l'initiation du rapport au père et à la mère. Jean-Luc, peut-être quelques mots ?
Oui, alors le premier est l'œuvre de Paolo Cognetti, hein, s'appelle Les Huit Montagnes, c'est paru aux éditions Stock, la Cosmopolite. C'est l'histoire d'une rencontre entre Pietro, un petit Milanais qui vient régulièrement avec ses parents à Grana, qui est situé au cœur du Val d'Aoste, et Bruno, un gosse lié à la montagne. Bruno initie Pietro au secret de la montagne, ensemble ils parcourent alpages, forêts et glaciers. Une amitié née forte et indéfectible. L'image du père est très présente puisqu'il emmène aussi son fils sur les cimes où la végétation disparaît, où la nature devient plus âpre. 20 ans plus tard, après une période citadine, Pietro retourne à Grana auprès de son ami et tentera de se réconcilier avec son passé.
Laurence, cette histoire brièvement résumée en cache des multiples autres. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter sur cette présentation ?
Alors effectivement, c'est une amitié magnifique, une amitié où deux milieux sociaux s'affrontent, la ville, la montagne. Et c'est vraiment aussi un texte où le chemin de vie de chacun des protagonistes est mis en avant.
Mais le père donc, est extrêmement présent. Il y a une histoire un peu tragique autour du père. Il essaye d'emmener son fils, il y a une espèce d'initiation, quelques mots là-dessus aussi, sur ce rapport entre le père et le fils.
Alors le père est un personnage assez particulier puisqu'il est très préoccupé par son travail. Et à la ville, c'est un homme assez inatteignable, mais dès qu'il arrive à la montagne, eh bien, c'est un père disponible qui a envie de transmettre à son fils cet amour de la montagne. C'est vraiment deux personnages, je veux dire deux facettes du personnage qui sont bien distinctes selon le milieu dans lequel il se trouve.
Et Paolo Cognetti construit son livre de manière très particulière. Il nous envoie, il y a plusieurs étapes. Expliquez-nous un peu comment il construit ce livre là avec ce côté un peu initiatique.
Alors effectivement, il est construit un peu comme peut être construit la vie d'un homme, et plus particulièrement celle d'une éducation, avec des étapes. On suit les personnages au gré de leur vie, avec ces différentes étapes qu'ils franchissent.
Mais les beaux espaces, quand ils sont très jeunes, là, quand il arrive, Pietro, il arrive à l'âge de 10 ans, en fait, et il est emmené par ce jeune garçon qui est très attaché à la montagne. Et c'est incroyable ce qu'il arrive à lui faire découvrir de cette montagne.
Oui, effectivement. C'est une amitié pas comme les autres, parce que finalement, ils ne se disent pas beaucoup de choses. Elle n'est pas tellement verbale, mais elle est plutôt dans les fêtes où ils partagent du travail, des balades, des choses sans parole. Et ça permet à la montagne de prendre toute sa puissance dans l'écriture. Elle est là, comme tu le disais, c'est un véritable personnage qui les accompagne, qui les soulève.
Et le père met en évidence aussi ça, parce que le père, il veut toujours faire des exploits, en fait. Le père, ce qui est incroyable, c'est qu'il monte rapidement, enfin, il est soufflé, etc. Il a envie que son fils le suive partout. J'ai trouvé ça quand même assez prenant, quoi, toujours cette espèce de défi face à la montagne. Et le fils le suit, et pas toujours. Quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire, je trouve.
Ouais. Il se réalise dans ses courses frénétiques, ses courses folles, et il a envie de transmettre cette passion à son fils, ce qui est pas toujours évident. De transmettre une passion, ça dépend de l'individu qu'on a en face de soi. Et c'est vrai que son fils, il met quelque réticence à un moment donné.
Alors, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'il y a un des enfants, Bruno, qui est très attaché à la montagne, et l'autre qui va sporadiquement à la montagne et qui finalement voyage. Quelquement, en fait, sur ce cheminement des deux personnages qui est quand même assez différent, mais ils sont quand même associés, ils s'associent quand même pour leur recherche de la vie, de l'existence.
Oui, effectivement, Pietro, le fils de la ville, je dirais qu'il a des difficultés à trouver son chemin de vie, ses racines. Et à travers son parcours, il va beaucoup bouger. Il va aller même jusqu'en Himalaya. Alors que Bruno, le fils de la montagne, lui, il a vraiment compris où il doit vivre et où il doit rester. C'est un texte magnifique parce que c'est deux quêtes de liberté, une même quête de liberté dans deux individus différents à travers les âges, et de liberté et d'accomplissement de soi. Et c'est vrai qu'ils n'usent pas le même chemin puisqu'ils sont fondamentalement différents l'un et l'autre.
Alors, il y a une très très belle histoire que raconte un vieux Népalais à Bruno lors de son voyage. Il parle des huit montagnes, donc ça donne le titre du livre. Et il en parle comme ça, quoi. Il y avait une montagne sur laquelle j'avais grandi. Ça, c'est Pietro qui parle en allant en Himalaya et qui dit j'ai eu envie d'aller en Himalaya parce que c'est les plus belles montagnes. Donc le monsieur, le Népalais, lui réplique Ah, dit-il, je vois que tu fais le tour des huit montagnes. Et là, il se met alors à dessiner une roue à huit rayons qui représente les huit montagnes. Au centre du monde, il y a un autre beaucoup plus haut, le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a huit montagnes et huit mers. Il lui dit, c'est le monde pour nous. Et après avoir planté son bâton au centre, il conclut, nous disons, lequel des deux aura le plus appris, celui qui aura fait le tour des huit montagnes ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru?
Effectivement, on peut vraiment se dire qui est-ce. Quel est lequel des deux a le plus appris? Est-ce que c'est Bruno ou c'est Pietro? Finalement, c'est un résumé de cette histoire, de ce que tu viens de nous conter.
Et l'histoire se poursuivra. On ne va pas tout raconter le livre, mais non. C'est vrai que je me suis assez entraîné dans l'univers de la montagne, hein, par toutes ces questions de transmission, ces rituels de passage, le mythe de la nature, le choix de sa vie. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des passages étonnants par rapport à le choix de sa vie. Ils s'interrogent l'un et l'autre sur ce qu'ils doivent faire dans cette vie.
Ouais.
Et ça, je trouve aussi assez admirable, quoi, ce contact entre ces deux êtres par rapport à ça. Donc voilà, l'histoire des huit montagnes, elle illustre bien la quête de chacun, mais nous n'allons pas divulguer la fin de l'histoire et nous invitons nos auditeurs à lire ce roman.
Laurence, peut-être encore quelques mots sur l'auteur, hein, qui entretient un rapport très particulier avec la montagne, fort et tourmenté. Il parle d'ailleurs, hein, dans Le garçon sauvage, carnet de montagne, paru en traduction française, c'était en 2016, chez Zoé. Cette perception qu'il a de la montagne?
Alors, je dirais que, en tout cas, pour Les Huit Montagnes, c'est un roman qui est passablement autobiographique sur certains aspects. Et celui que vous venez de citer, c'est son histoire aussi un peu à lui, puisqu'il a tout d'abord suivi un cursus universitaire. Il a fait des études de mathématiques qu'il a abandonnées pour faire une école de cinéma. Et à 30 ans, il a tout plaqué et il est monté à la montagne. Et ce titre que vous venez de citer, c'est sa montée à l'alpage. Il avait l'objectif d'y passer toute l'année, mais le temps venant, l'âge, les années passant, aujourd'hui, il dit bien qu'il passe que l'été à la montagne, mais pas toute l'année.
Alors, un petit clin d'œil, on va passer un petit extrait.
Un petit extrait, oui. Un petit
de la montagne de Jean Ferrat.
Bah oui, parce qu'on parle de montagne.
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Pleurant de sa tête, il fait monter des murettes jusqu'au sommet. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
L'automne est arrivé avec Jean Ferrat, La Montagne, titre de 1965, hein, pour illustrer ce premier ouvrage. Un deuxième livre que vous avez choisi, Laurence, L'Alphabet du Matin, publié à L'Air Bleu, est d'une autrice romande, Alice Reva. Ce livre évoque magnifiquement son enfance, hein, à Clarens, au début du XXe siècle. Alice Reva est née en 1901, pour être tout à fait précis. C'est aussi un livre qui parle de filiation.
Il ne s'agit pas d'Alice Reva, mais d'Alice Riva.
Riva, pardon.
Il n'y a pas de souci.
Non, Reva, ce serait valaisan, ça, plutôt.
Effectivement. Alors là, effectivement, c'est un livre de filiation. Et pour mieux comprendre d'où elle vient, cette auteure, je vais vous dire deux mots d'abord sur ses parents.
Oui.
Parce que ce récit, il s'agit de son récit de toute petite enfance, soit de très petite jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et donc, elle est issue d'une mère qui est née à la fin du 19e siècle. Cette mère a perdu son père très jeune et entre l'âge de 10 et 15 ans, elle est partie pour faire vivre sa famille comme jeune fille au père en Angleterre et en Allemagne. Mmh. Chose étonnante au 19e siècle. Et ensuite, de quoi elle est rentrée en Suisse et elle est partie dans les ordres. Mais elle a rencontré le père d'Alice Riva qui, lui, était un instituteur. Il s'appelait Paul Gaulet. Et ensemble, ils ont eu cette petite Alice, effectivement, comme vous l'avez dit, en 1901. C'est un récit absolument extraordinaire parce que j'entends ce récit a été écrit alors qu'elle avait 64 ans. Donc, on a les yeux de l'adulte qui raconte sa petite enfance. On a les yeux de l'auteur bien...
Elle a vraiment des souvenirs incroyables.
Incroyables. Et pour nous aussi, c'est une source, une richesse de voir cette époque... De voir Clarens à cette époque-là, la Riviera à cette époque-là.
D'ailleurs, elle parle avec beaucoup de finesse de l'intimité familiale et aussi elle décrit avec force détail l'environnement. C'est vraiment une fresque de la société de l'époque.
Effectivement, à travers une famille très politisée, puisque vous m'entendez toujours.
Oui, on vous entend, mais ce micro, il pose quelques petits problèmes. On va éviter de trop le toucher, voilà.
D'accord.
Il fonctionne.
Parfait. Donc, je disais, elle est issue d'une famille très politisée, puisque son père est socialiste engagé, et sa mère encore très empreinte de protestantisme. Et on a ces deux paramètres qui vont conditionner son regard sur ce qu'elle va vivre naturellement. Et c'est particulièrement intéressant.
Il y a deux exemples en relation avec le tourisme, avec les Anglais qui viennent à Montreux.
Ah oui,
pourriez-vous
oui,
m'expliquer
oui.
un peu ces anecdotes qui sont incroyables, quoi.
Ah, c'est vraiment délicieux, quoi, effectivement. Alors, le père, bien sûr, une horde d'Anglais arrivait à la gare de Montreux avec des valises, des limousines qui les attendaient. Les hôtels avaient été construits en fonction. Et ils étaient tous accueillis comme des dieux à cette époque-là à Montreux. Et le père d'Alice a ce mot assez acerbe en disant que toute la petite armée au service de l'étranger, l'armée suisse au service de l'étranger, sont vraiment mobilisés pour recevoir tous ces étrangers qui vivent sans travailler et qui finalement sont le fruit de la colonisation. Je veux dire, le fait qu'ils ne travaillent pas, c'est le fruit de la colonisation, quoi. Ça, c'est assez percutant comme remarque. Et puis, dans les petites anecdotes, on voit ces étrangers avec des habits neufs qui sortent quasi du tailleur, qui se changent plusieurs fois par jour. Alors qu'en opposition avec les locaux, eux, ils ont des habits reprisés, encore reprisés, et ils ont des habits corrects pour le dimanche. Mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que leur façon de se laver aussi est étonnante. Chaque jour, ils prennent un bain dans une salle de bain luxueuse de palace, alors que les locaux, ils ont des bassines en cuivre qu'ils utilisent une fois le samedi pour prendre un bain, mais dans la chambre à lessive ou dans la cuisine. Et on est vraiment dans la confrontation de deux mondes différents. Et nous, Suisses d'aujourd'hui, on a peut-être aussi oublié, la pauvreté, ou je veux dire le côté démuni de la population qui était à ce moment-là.
Et moi, je soulignerais comme la force de ces écritures, que je trouve que c'est une écriture ciselée, extrêmement précise,
magnifique.
Des fois un peu précieuse, mais un sens de la narration incroyable, ouais. Description des détails, les sentiments de petite fille, quand elle va visiter sa grand-mère, enfin, c'est très délicat, donc je vous invite vraiment... aller lire ce livre
qui est
assez extraordinaire.
Ouais, c'est superbe.
Et on les a ici sur la table. Ça donne tout à fait envie quand on les voit. Aussi la couverture extérieure et tout, c'est tout à fait alléchant. Des bonnes lectures pour la période hivernale au coin du feu.
Absolument.
Les deux livres que vous nous avez apportés, Laurence Devaux, de la librairie Basta, Les 8 montagnes de Paolo Cognetti aux éditions La Cosmopolite Stock, qui a obtenu le 71e prix Strega 2017, l'équivalent italien du prix Goncourt. Hein, ouais. Le prix Goncourt qui est
et il a obtenu le prix Médicis étranger aussi pour la francophonie.
Hein. Ah, oui. Il cumule les étoiles et les trophées. Voilà, une raison de plus hein, pour le lire. Et le deuxième ouvrage dont on parlait à l'instant, L'alphabet du matin de Alice Riva aux éditions L'Air Bleu. Ces ouvrages sont à retrouver bien sûr à la librairie Basta située au Petit Rocher 4 à Lausanne. Voilà pour cette découverte littéraire. Merci beaucoup Laurence Devaux.
Avec plaisir.
À tout bientôt pour des prochaines et futures découvertes littéraires.
Oui.
Peut-être avant le printemps, voire même avant l'été. Ça, on en est quasiment sûr. Une belle soirée à vous.
Vous aussi.
Et bien, on vous met tous les liens et les détails sur notre site www.django.fm. Merci Jean-Luc pour
présenter ce sujet.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé de l'initiative No Bilag avec Assidus. Nous avons parlé de boxe avec Régis Bruno Nkuluzombo. Et la découverte à l'instant de deux livres proposés par la librairie Basta. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, un menu un petit peu original qu'on va vous proposer, puisqu'on va vous faire découvrir notamment une captation théâtrale qui est exclusive à Radio Django. Donc soyez bien au rendez-vous de Cultiver Lausanne la semaine prochaine aux environs de 18h40, mais le Grand Direct c'est à partir de 18h comme chaque semaine. Rendez-vous donc mardi prochain pour ce rendez-vous de vie lausannoise à partir de 18h à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique grâce au DAB. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes. Il est 19h passé précisément de 3 minutes. À bientôt.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.